Cause de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. César Yao.
Bonsoir à tous, les titres de ce vendredi 18h. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle reçoit à Abidjan les 7 et 8 juin prochains une rencontre internationale sur le numérique. Son président René Bourgoin a dévoilé la thématique. Quelle approche commune des régulateurs des pays membres de l'UMOA et de la Guinée face aux plateformes numériques. Examen scolaire à grand tirage en session 2023. Le démarrage, c'est à partir du 5 juin prochain. L'organisation des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire, dont le président est Claude Akakadio, lance un appel à la responsabilité des élèves et enseignants. Stop à la tricherie et à la corruption. Dans l'actualité internationale au Sénégal, 9 personnes ont été tuées hier jeudi dans des violences après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. L'opposant a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Ce vendredi, dans certains secteurs, Dakar ressemblait à une ville fantôme, commerce fermé. Idem pour les écoles. Et bien voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle reçoit à Abidjan les 7 et 8 juin prochains une rencontre internationale sur le numérique. Son président René Bourgoin a fait cette annonce à la faveur de la cérémonie de remise de son rapport d'activité 2022 au chef de l'État représenté pour la circonstance par son vice-président Thiemoko Meliekone sur la régulation des médias numériques et l'accès aux médias de service public. Le président de la ACA donne ici des précisions.
Depuis la loi du 20 décembre 2022, la ACA a vu ses compétences élargies à la régulation de ce que l'on pourrait appeler les réseaux sociaux. Très bientôt, à Abidjan, les 7 et 8 juin, donc la semaine prochaine, nous recevons les régulateurs de la communication audiovisuelle des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Et à ces régulateurs-là de l'espace sous-régional s'ajoutent des régulateurs d'Europe et d'autres régions d'Afrique qui sont attendus à Abidjan pour débattre de ces questions. La thématique, c'est précisément quelle approche commune des régulateurs des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée face aux plateformes numériques.
Du libre accès aux médias d'État notamment, l'équité. Alors là-dessus, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? Comment est-ce que vous travaillez?
La ACA, dans ses attributions, garantit l'accès équitable des institutions de la République, partis politiques, des syndicats, des citoyens, la société civile, aux médias de services publics.
Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ce libre accès est une réalité?
Bien entendu, le libre accès est une réalité. Nous avons tous les mois un rapport qui est remis à tous les représentants des partis politiques, à tous les présidents de groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale.
Voilà à l'instant Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Je ne pas Constant Maïlé. La 7e édition de VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux entreprises innovantes et à la technologie, se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris. Et c'est en France. L'État de Côte d'Ivoire accompagne officiellement plusieurs start-up ivoiriennes qui ont pignon sur rue dans leur domaine, ici et ailleurs. On en parle avec Mata Touré.
Ce sont au total une douzaine de start-up ivoiriennes qui ont fait leur preuve ici et ailleurs dans les domaines de la télémédecine ou encore des cartes de santé numériques sous forme de bracelets numériques, des drones dans le domaine de l'agriculture ou encore des applications de téléphonie mobile en langue bien de chez nous et qui comptent bien conquérir leur part de marché cette fois avec l'appui de l'État ivoirien. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique.
Au niveau mondial, les fonds qui sont levés pour le financement des start-up sont de plus de 270 000 milliards. Les fonds qui sont dédiés donc aux start-up africaines représentent seulement 1% de ce montant. Notre pays, grâce à cet embryon de start-up qui existe, arrive également à avoir une petite part. C'est un peu plus de 20 milliards seulement que nous avons pu lever.
Du côté du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle, on voit là des perspectives pour d'autres jeunes à Mamadou Touré.
Nous visons la formation de 2310 jeunes dans le domaine donc du numérique. En plus de la mise en place d'incubateurs dans le domaine donc du numérique, en en faveur de notre jeunesse. Nous, au-delà donc, du SEM Salon, le développement de ces startups, en plus donc, de l'apport donc, sur le plan d'innovation, permettra aussi donc, d'avoir une valeur ajoutée en termes de création d'emplois, surtout pour d'autres jeunes.
La 7e édition de VivaTech, le rendez-vous mondial des startups, se tiendra du 14 au 17 juin à Paris, au Salon Expo, porte de Versailles.
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était hier jeudi face aux députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. L'émissaire du gouvernement a exposé sur le projet de loi portant code de l'environnement. D'importantes innovations ont été intégrées dans ce nouveau code de l'environnement. Il est prévu entre autres la création d'une police environnementale et d'une nouvelle agence chargée de l'exécution de la politique environnementale en lieu et place de l'Agence nationale de l'environnement. Là-dessus, écoutons le ministre Jean-Luc Cassier après adoption à l'unanimité du dit projet de loi.
Ce code de l'environnement a été élaboré et adopté depuis 1996 et il était question donc de faire la révision de ce code pour tenir compte des nouveaux enjeux. Et entre autres, ces enjeux, c'est le changement climatique, la conservation de la biodiversité, tout ce qui est protection donc, des montagnes et des mangroves. Ces nouvelles données nous ont amenés à prendre de nouvelles dispositions pour élaborer un nouveau code de l'environnement pour tenir compte de tous ces enjeux du moment. Alors, après avoir pris en compte donc, tous ces enjeux, il était important pour nous d'insérer à partir de cela certains principes. Et vous savez très bien que l'ancien code de l'environnement ne prenait pas en compte un certain nombre de principes, notamment le plus important, c'est le principe de la responsabilité élargie du producteur. Pour comprendre bien ce principe, il faut savoir que désormais, le projet de code de l'environnement adopté, dans sa mise en œuvre, exigera le traitement des déchets issus donc des différents produits par les producteurs, les fabricants et les importateurs de ces produits. Tout ça pour assurer l'environnement sain pour que les Ivoiriens puissent bénéficier de leur entière santé.
Voilà à l'instant Jean-Luc Cassis, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Appel conjoint du PDCI et du PPACI pour une prolongation du délai du contentieux en Côte d'Ivoire. Hier, jeudi 1er juin, la maison du parti du PDCI-RD à Cocody a abrité une conférence de presse conjointe des deux formations politiques. Face à la presse, donc, ils ont livré les résultats préliminaires du comité technique paritaire mis en place à cet effet et disent avoir décelé de nombreuses anomalies sur la liste électorale provisoire. Les détails avec Justin Koné-Katina, porte-parole du PPACI.
Sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du code électoral. On constate la présence de 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue ou incomplète, celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Bloloquin commune, dans le seul lieu de vote EPP Bredidieya, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnues. Au titre, la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale dans certains lieux de vote, on constate dans la région du Folon, dans le département de Kaniasso, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. Dans la région du Kabadougou, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté seulement que de 4%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. On est en droit de s'interroger sur l'origine de cette croissance exponentielle.
À l'instant, Justin Koné-Katina, le porte-parole du PPACI. Examen à grand tirage, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a lancé mercredi dernier le démarrage à partir du 5 juin prochain des examens scolaires de la session 2023. Et à cette occasion, elle a insisté sur la lutte contre la fraude lors des différentes épreuves. Et c'est un message qu'amplifie ici l'organisation des parents, d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPC, dont le président Claude Akakadio lance ici un appel à la responsabilité des élèves et des enseignants.
Vous savez que la tricherie n'honore pas l'individu même qui triche, ni ses parents, ni la société. Quand vous fraudez, vous êtes un tricheur et la société n'a pas besoin de tricheurs. Donc la fraude, c'est une mauvaise chose qu'un enfant ne doit pas faire. Il faut donc proscrire ça de ses actions. Et nous, en tant que parents d'élèves, nous sommes soucieux de cela. Et depuis près de 3 ans, chaque année, à la veille des examens, nous initions des tournées dans les écoles et nous rencontrons les élèves à qui nous parlons, à qui nous donnons vraiment d'énormes conseils pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de tricher, mais qu'il faut travailler, il faut privilégier le travail. Les enseignants également contribuent à la fraude et c'est très grave. Et l'année dernière, justement, il y a eu 331 enseignants qui ont été pris en flagrant délit de faute, de tricherie. Et donc le ministre a sorti un arrêté pour les sanctionner. Donc ces enseignants-là vont écoper de l'ajournement, ils vont perdre leur autorisation d'enseigner et ils vont rester peut-être 5 ans sans pouvoir être convoqués à participer aux examens en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des numéros verts que le ministère a imprimés. Donc, quand ils trichent, il faut les signaler pour qu'ils soient sanctionnés.
Voilà, c'était Claude Akakadio. Il est le président de l'Organisation des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPC. L'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, forme les organisations syndicales sur l'élaboration et la mise en œuvre de campagnes en faveur de la ratification de la Convention 189 sur le travail des domestiques. Un atelier a eu lieu à cet effet du 31 mai au 2 juin. A lieu donc 2 juin 2023 ici à Abidjan. Eh bien, on en parle avec Junior Cardin qui était à l'ouverture.
Mesdames et messieurs, quel sort voulons-nous réserver à ces personnes qui passent souvent toute leur vie à nous servir, nous et nos familles respectives? La réponse à cette question dénotera de notre sérieux à faire de nos maisons le cadre du travail décent.
Ce questionnement de Elie Bouga, président de la centrale syndicale Dignité, au nom des travailleurs, résume les attentes de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui offre une protection spécifique aux travailleurs domestiques. Mais pour qu'il en soit ainsi, en Côte d'Ivoire, cette convention adoptée depuis 2011 doit être ratifiée par les autorités ivoiriennes. D'où cette interpellation de Frédéric Laperle, directeur du bureau pays de l'OIT.
Les organisations syndicales devront convaincre le gouvernement et les parlements de ratifier et de mettre en œuvre la convention et devront aussi, dans ce cadre-là, mener des campagnes d'information et de sensibilisation fondées sur un argumentaire solide. La ratification, ça impose toute une série d'obligations pour le gouvernement avec des rapports réguliers qui doivent donner à l'OIT sur la question de la mise en application du contenu de la convention.
Le dossier de la ratification de la Convention 189 est en bonne voie, au dire de Edouard Sibahi, intervenant au nom des employeurs.
La volonté des uns des autres de voir cet instrument ratifié est tout à fait nette. Je suis membre de la commission consultative du travail sur les normes internationales du travail et cet organe logé au ministère a inscrit cette convention sur la liste des conventions à ratifier par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons même transmis l'instrument au ministère des Affaires étrangères et cela suit son cours.
L'inspecteur général au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Ago Ebenezer, a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIT qui mobilise les énergies dans ce domaine.
À présent, l'actualité internationale au Sénégal, 9 personnes ont été tuées le 1er juin hier, donc dans des violences. Après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, l'opposant accusé de viol par l'ancienne masseuse à Guissard a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Des affrontements meurtriers avaient éclaté dans la foulée à Dakar et Ziguinchor, ville dont le leader du parti PASTEF est le maire. Et bien ce vendredi matin, matin, dans certains secteurs, Dakar ressemblait à une ville fantôme. Commerce fermé, peu de circulation, idem pour les écoles. Journaliste sénégalais et administrateur du site Mediapost.com, un journal en ligne, Jacques Ngor Dior retrace ici dans cette correspondance particulière l'atmosphère qui prévaut après le verdict du tribunal criminel de Dakar.
Actuellement, la situation est redevenue normale. Hein. Présentement, les choses sont calmées. On constate que les choses reprennent petit à petit. Certains commerçants ont ouvert, les gens au travail, mais c'est pas tout le monde parce qu'il y a cette méfiance. Je ne vous le cache pas, peut-être les choses peuvent redémarrer. Les gens restent très prudents. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas fait cours, contrairement à hier où des heures de manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays. Des manifestations qui ont abouti à 9 morts. Hein. Et ça, c'est un chiffre qui a été même confirmé par le ministère de l'Intérieur. Tout dépendra de l'évolution. Ousmane Sonko, je pense qu'il est encore chez lui. Je ne sais pas si on va l'amener. En tout cas, le ministre de la Justice a dit qu'il peut être en tout cas emprisonné à tout moment. Là aussi, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Mais d'après ce qu'on a vu, on peut dire que les choses ne vont pas s'améliorer si réellement le principal opposant est mis en prison. Il risque de ne pas être éligible pour l'élection présidentielle de 2024. Et c'est surtout ça l'enjeu. Il a déjà été condamné à 2 mois ferme. Et là, ses militants, en tout cas, n'acceptent pas. Pour l'instant, rien n'est encore sûr ici. On attend de voir. Les autorités ont donné des gages que la situation va reprendre à la normale. Maintenant, comme disent les Anglais, wait and see. Mais en tout cas, pour ce qu'on a vu hier, les choses restent encore très floues.
Voilà le Sénégal, justement, ce pays considéré comme un exemple de démocratie au franc moment même. Une autre image qui pourrait le desservir. C'est ce qui ressort précisément de l'analyse du professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody Kouadio Nguessan, que nous écoutons.
Je pense que cette situation n'honore pas le Sénégal parce que jusque-là, il a toujours été considéré comme un bel exemple de démocratie et de stabilité politique en Afrique. Très souvent, ce qu'on constate, c'est que ces situations interviennent à la veille des élections générales où, par un jeu de magie, on tente de pouvoir bloquer l'adversaire afin de l'empêcher de se présenter aux élections. Et il n'y a pas que le Sénégal, il y a plusieurs exemples. On a l'impression que ce qui préoccupe ceux qui nous gouvernent, c'est de tout mettre en œuvre pour se maintenir, pour exercer leur pouvoir politique. Mais bien entendu, ces partisans et ces militants ne peuvent être que choqués et tentés de réagir parce qu'ils ne sont pas convaincus de l'équité de la décision de la justice. Comme le chef de l'État est le chef suprême de la justice, j'espère qu'il pourra faire quelque chose pour éviter que la situation ne s'envenime.
Voilà. C'était Kouadio Nguessan, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Et précédemment, Jacques Ngor Sarr, journaliste et administrateur du site Mediapost.com, un journal en ligne, ont été joints par Marthe Kakou. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle reçoit à Abidjan les 7 et 8 juin prochaines rencontres internationales sur le numérique. Son président René Bourguin a dévoilé la thématique et l'approche commune des régulateurs des pays membres de l'UMOA et de la Guinée face aux plateformes numériques. Examen scolaire à grand tirage aux sessions 2023. Le démarrage, c'est à partir du 5 juin prochain. L'organisation des parents d'élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire, dont le président Claude Akakadio lance un appel à la responsabilité des élèves et enseignants. Stop à la tricherie et à la corruption. Enfin, dans l'actualité internationale au Sénégal, 9 personnes ont été tuées hier jeudi dans des violences après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. L'opposant a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Ce vendredi même, dans certains secteurs, Dakar ressemblait à une ville fantôme. Commerce fermé, peu de circulation, idem pour les écoles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, demain samedi, 17h. Tout de suite, le magazine humanitaire avec Sonia Nzian.